L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. La première fois que j'ai entendu le mot phragmite aquatique, j'ai pensé à un insecte à longues pattes qui marcherait sur l'eau. Puis en fait, non, pas du tout, c'était ça. Alors, c'est une captation sonore qui est signée Stanislas Vroza pour le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et c'est donc un oiseau, le phragmite aquatique, un petit oiseau dont on ne se doute qu'il vit pas loin de l'eau, aquatique. Alors, sur sa fiche Wikipédia, on apprend que ce passereau vit surtout en Europe de l'Est. Mais l'encyclopédie en ligne mentionne aussi que Bretagne Vivante a cartographié la présence du phragmite dans les endroits où il passe. Donc, on peut en déduire que l'oiseau passe par la Bretagne. Et donc, justement, Bretagne Vivante est un partenaire fidèle du LEM. Et c'est Christine Blaise qui est venue aujourd'hui nous parler du phragmite. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Alors déjà, à quoi, puisqu'on est en radio, il faut visualiser, à quoi est-ce que le phragmite ressemble ?
Alors, le phragmite aquatique, comme tu viens de dire, c'est un oiseau des zones humides. Et comme plein d'oiseaux des zones humides, il a tendance à avoir un plumage un peu mimétique, c'est-à-dire qu'il se confond dans son milieu. Et donc, en fait, le phragmite aquatique, c'est un petit passereau, on va dire, un petit peu plus petit qu'un rouge-gorge, qui est tout marron.
Voilà. D'accord, ça pèse quoi, 5 grammes enfin,
non. Ah non, quand même pas. On est plutôt aux alentours de 12 grammes et en migration, ça peut, quand il est bien gras et qu'il a plein d'énergie pour faire des longs trajets, il peut monter à 18-19 grammes. Ça reste tout petit.
Et voilà. La forme générale alors
La forme générale, qu'est-ce que je pourrais donner comme... C'est une petite fauvette. Alors si on connaît les fauvettes des jardins, c'est ces oiseaux... un petit, ça fait 13 cm de long, donc c'est pas bien grand. Un peu élancé, avec un bec fin, typique des espèces insectivores.
Ah oui, c'est pas un gros bec triangulaire. Là,
voilà, ouais. C'est pas un gros bec de granivore comme un pinson des arbres ou un moineau domestique, par exemple. Non, c'est un petit bec fin, comme le rouge-gorge, comme la fauvette des jardins ou la fauvette grisette qu'on peut voir dans nos jardins aussi assez facilement. Et puis, son plumage, il est marron, mais il est pas marron uni quand même. C'est plus joli que ça. Ça fait des sortes de flamèches, un mélange qui va du jaune au marron clair, avec plein de dessins. Et ce qui est assez joli sur le phragmite aquatique et qui nous permet de bien l'identifier par rapport aux autres espèces, c'est qu'il a ce qu'on appelle deux bandes jaunes sur la tête. Voilà. Donc, une.
Oui.
Pardon,
d'accord.
Une bande jaune. Mais du coup, c'est assez flashant et voilà, ça fait un peu.
Ah oui, donc il est quand même. Il n'est pas vilain, quoi, le phragmite.
Ah non, il n'est pas vilain, mais c'est qu'il est discret. Mm-hmm. Voilà, ça ne va pas être. Ouais. Je ne sais pas, il n'a pas la gorge rouge pétante comme un bouvreuil. Enfin, voilà, il n'y a pas des couleurs chatoyantes.
Ouais, parce que. Il a sans doute des prédateurs, enfin on va en parler.
Oui.
Et c'est pour ça, je suppose qu'il est discret.
Ah ben oui, parce qu'en plus, contrairement à d'autres espèces, le mâle et la femelle ont le même plumage.
Ah oui.
Voilà. Donc,
on ne peut pas trop les distinguer alors, il n'y a pas de question de taille ou...
Non, il n'y a pas de question de taille. Pour les distinguer, il faut les avoir en main, comme sur les autres fauvettes. C'est-à-dire qu'en période de reproduction, il y a des indices de reproduction différents chez le mâle et la femelle qui permettent de savoir, mais c'est seulement à une période de l'année. Et effectivement, la femelle fait son nid au sol, donc elle a effectivement besoin d'avoir un plumage qui se confond avec l'environnement.
Alors, on a parlé un petit peu de son habitat, milieu humide, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, qu'est-ce qu'il mange ? Comment il vit dans son milieu humide ?
Alors, ce qu'on connaît aujourd'hui, donc, pardon, c'est basé sur, comme tu disais tout au début de ta présentation, c'est un oiseau qui niche en Europe de l'Est, exclusivement, dans 4 pays uniquement, aujourd'hui. C'était beaucoup plus avant, mais c'est en fait le phragmite aquatique, c'est le passereau le plus mondialement menacé. Voilà, donc il va
on
pas très bien.
Aussi
ouais, on y reviendra aussi. Mais donc du coup aujourd'hui son aire de répartition au niveau de la nidification, elle est assez restreinte et parce que justement les habitats qu'il recherche pour nicher, ce sont les grandes prairies alluviales. Par exemple, un des endroits qu'on peut typiquement citer et qui caractérise bien les habitats où il est, c'est la grande vallée de Bierza en Pologne. Ah. Donc, c'est une grande vallée alluviale avec des surfaces immenses, ouvertes, de prairies très humides, très inondées, qui étaient des prairies de fauche, en fait.
Donc c'est pas de l'estuaire, c'est l'eau douce, c'est...
Alors, ils s'en fichent.
Ah bon, ah bah bien.
Il s'en fiche. Alors, il est pas dépendant en fait qu'on soit sur une eau douce ou une eau saumâtre. Ça le gêne pas. Il faut vraiment que le milieu soit humide, soit ouvert. Ce qu'il aime pas et ce qui a posé problème sur la perte des habitats, c'est la déprise agricole et la reconquête par les ligneux.
Oui.
Voilà, quand les prairies humides, il y en a pas mal.
Ouais, des arbres qui poussent à la place des champs, enfin à la place des prairies, quoi.
Exactement, ouais. Des arbres qui poussent à la place des prairies. Voilà. Et après, comme c'est un insectivore strict, il a besoin que ça soit effectivement très humide pour que les insectes se développent. Mais après, en fait, que ça soit des insectes qui se développent en milieu saumâtre ou en milieu d'eau douce, ça lui pose pas de problème. Notamment sur les zones de migration, comme on en parlera peut-être plus tard en Bretagne, où là, on est franchement sur des zones saumâtres. Ouais.
Et c'est quel genre d'insectes alors qu'ils mangent ?
Alors là, le genre d'insectes,
c'est plutôt des larves ou plutôt des moustiques ou des...
Oui, ben voilà, ça va être des petits insectes volants, des araignées, des pucerons quand il y en a, jusque aux petites libellules. Enfin, c'est vraiment ouais.
Mm-hmm. Et donc, oui, c'est des insectes aquatiques. Enfin, c'est ça, en fait.
Oui, voilà. Oui. Mm. Bah, c'est quand, en zone humide, ça dérange parfois les gens, mais en zone humide, c'est là où il y a plein d'insectes qui volent dans tous les sens. C'est là qui prend, ouais.
Mm. Ah, ouais. Il y a plus d'insectes en zone humide. Je sais pas, c'est.
Bah, quand en zone saharienne, ouais.
Ouais, ok, d'accord. Bon, après, il y a pas mal d'insectes en forêt.
Il y a pas mal d'insectes en forêt, on est d'accord, mais après, son milieu, c'est les milieux ouverts, donc il va pas aller en forêt, quoi.
Ouais, et c'est vrai, c'est étonnant pourquoi, en fait, quand on pense oiseaux, on pense arbres. Et en fait, pourquoi est-ce que certains oiseaux n'apprécient pas les arbres, entre guillemets?
Ah, bah alors, ça, j'en sais rien.
Il faut lui demander.
Oui, il faudrait lui demander. Mais effectivement, c'est vrai que ça, c'est une idée assez reçue. C'est peut-être aussi parce que dans les livres, quand on est enfant, le nid de l'oiseau, c'est le nid de la pie, puis il est en haut de l'arbre. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que des pies. Et il y a plein d'oiseaux, en fait, qui nichent au sol. Et le phragmite aquatique en fait partie. Alors, il niche pas au sol. Bah, par exemple, si on prend le gravelot qu'on connaît bien en Bretagne, qui va faire sa... qui va faire sa cuvette dans le sable, donc c'est vraiment un nid au sol. Lui, en fait, c'est un peu comme le bruant des roseaux ou bien la cisticole des joncs, qui sont aussi des espèces qu'on dit cousines parce qu'elles sont dans les milieux humides, un peu prairiaux, ouverts en tous les cas. C'est un nid qui est mis sur des débris végétaux et qui est un petit peu au-dessus du sol.
Il fait un tas.
Ouais, en fait, il va chercher par exemple un touradon, il va prendre des petits bouts d'herbe qui traînent et puis il va faire une coupole. Et par exemple, s'il y a un peu d'herbe qui retombe par-dessus, ça cache un peu le nid.
Ah oui, donc il fabrique quand même une structure, quoi.
Oui, il fabrique une structure,
ça ressemble à un nid.
Voilà, mais c'est une sorte de bol qui est mis, on va dire, un peu au-dessus du sol. Et c'est aussi pour ça qu'il a besoin d'être dans des zones... pour la nidification, il faut vraiment que ça soit des zones où il y a une lame d'eau en période de nidif. Parce qu'en fait, il va le mettre dans l'endroit qui est un petit peu surélevé. Donc, c'est pour ça que je parlais de touradon.
Oui, les touradons, alors il faut peut-être expliquer, parce que les gens ne connaissent peut-être pas. En gros, ce sont des plantes comme la molinie qui agrègent leur... Enfin, ce n'est pas vraiment leur racine, mais leur base, en tout cas, qui est surélevée. Quoi.
Voilà,
ça fait une tour.
Ça fait une petite touffe. En fait, il faut imaginer une grande zone plus ou moins plate où il y a une lame d'entre 5 et 10 cm d'eau. Et sur cette lame d'eau, il y a des endroits où il y a des petits dômes de végétation qui dépassent. Et en fait, les oiseaux, comme le phragmite aquatique ou le bruant des roseaux, ils posent leur nid dessus.
Donc, on risque quand même pas trop de marcher dessus, finalement, puisque nous, les humains, on marche pas trop dans les zones humides.
Non. Et puis, franchement, les zones où ils sont encore réfugiés en Europe de l'Est, pour les marcher dessus, c'est des zones assez impénétrables, quoi.
Et ces quatre pays, alors, il y a la Pologne, et c'est quoi les
Alors,
autres pays
le pays principal, c'est la Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie.
Ah oui, d'accord. Oui. Ça tombe bien.
Non, il n'est pas super. On s'est un petit peu inquiété, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations.
Oui, c'est ça. Mais il y a quand même des informations de Bretagne vivante. Ah, parce que cet oiseau est un oiseau migrateur, c'est ça? Enfin, toujours
ça.
Ou pas
ah,
toujours
oui, oui. En fait, il est comme l'hirondelle. C'est un migrateur strict, puisqu'il est strictement insectivore. Il est obligé de migrer à l'automne pour aller chercher les insectes en Afrique. Il ne pourrait pas survivre en France, en tous les cas, pas aujourd'hui. Hein.
Et alors, il va où en Afrique exactement?
Alors, pour ce qu'on sait, parce que ça n'a pas été facile de savoir où il allait, aujourd'hui, les zones qu'on connaît, c'est au Sénégal, le long du fleuve Sénégal, dans les zones humides le long du fleuve Sénégal, et au Mali, dans le delta intérieur du Niger.
Et donc, c'est parce qu'il fait plus chaud. Enfin, là, pour le coup, c'est, il y va en hiver parce que.
Sinon,
il fait trop froid.
Eh bien, il fait chaud. Bah, c'est toujours pareil, c'est parce qu'il y a les insectes. Mm-hmm. En fait, ouais. Il fait chaud, il va dans les zones estuariennes, dans les zones marécageuses où il va y avoir des insectes. Et voilà. Après, il y a c'est pas facile de le suivre. Et du coup, là, on a ces infos qui remontent jusqu'à 2014. Parce qu'entre 2008 et 2014, il y a eu pas mal de prospections en Afrique pour trouver où il était, notamment par des équipes françaises. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres pays africains qui l'accueillent, mais pour l'instant, on ne le sait pas encore. Quoi.
Et donc, j'imagine qu'il fait des escales en Bretagne. C'est pour ça que Bretagne Vivante s'y est intéressée, c'est ça?
Oui, alors, pourquoi Bretagne Vivante s'est intéressée? En fait, jusque dans les années 80-90, en France, on connaissait le phragmite aquatique uniquement à Trinvel, quasiment. Personne ne savait où il passait. Par contre, à Trinvel, historiquement, la station de bagages de Trinvel, donc peut-être certains des auditeurs connaissent.
Les temps de Trinvel, c'est vers Tréguennec,
c'est ça.
Dans le pays Bigoudin. Voilà.
Exactement, au pays Bigoudin. Enfin, à cheval entre.
Oui, exact, la frontière.
Et donc, du coup, là, il y avait des zones de suivi de la migration des passereaux paludicoles, donc tous ceux des zones de marais, pas que le phragmite aquatique. Et c'était eux qui étaient les seuls à capturer des phragmites aquatiques à l'époque. Et on pensait du coup que c'était majoritairement en Bretagne qu'il était. Donc c'est pour ça que Bretagne Vivante s'est posé la question et a initié en fait tous les travaux en fait qui se sont poursuivis après à l'échelle de la France. Aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas que en Bretagne et qu'il est même globalement pas majoritairement en Bretagne. Si on n'avait pas commencé à se poser la question en Bretagne, je pense qu'on aurait mis quelques années encore à savoir où il était en France.
Donc il fait des escales donc pendant ces périodes de migration. Il y a l'automne et puis quand est-ce qu'il revient?
En avril.
D'accord.
Alors ouais. Sauf que a priori, en l'état des connaissances actuelles, parce que forcément les connaissances elles continuent toujours à évoluer. Hein. Des fois on croit qu'on sait tout puis en fait non, on a encore des surprises et encore heureux parce que c'est plutôt sympa. On a toujours décrit qu'il fait ce qu'on appelle une migration en boucle, c'est-à-dire que en fait quand il part en migration, donc ce qu'on appelle post-nuptiale, c'est-à-dire après la période de reproduction, donc globalement entre juillet et septembre, il passerait par une voie plus à l'ouest qui fait qui longe en fait la façade Manche Atlantique. Et donc là, effectivement, on a pas mal de stations de suivi en France pour cette espèce. Il descend après plutôt à l'ouest de l'Afrique, donc pour rejoindre le Sénégal et probablement un peu rentrer dans les terres pour aller vers le delta du Niger. Et par contre, on a toujours fait l'hypothèse, et il y a des éléments qui vont dans ce sens-là aussi, qu'au retour, donc au printemps, entre avril-mai, quand il retourne sur les sites de nidification, il aurait un trajet un peu plus direct qui passerait plus par la façade méditerranéenne. Et qui après couperait, on va dire, par le couloir rhodanien pour rejoindre les pays de l'Est.
Donc là, il ne passerait plus par la Bretagne, en fait.
Non, on a déjà fait de la prospection, on ne l'a jamais trouvé. On a quelques données, du mois d'avril. Mais alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je viens d'avoir des infos au mois de septembre, toutes nouvelles, sur la baie de Somme qu'on ne connaissait pas. Donc, je ne sais pas quoi dire. Parce qu'en fait, jusqu'à l'année dernière, on avait un point dans l'estuaire de la Loire en 2012. Enfin, un point, c'est-à-dire une donnée. Mm-hmm. Et un point en Gironde aussi en 2012. Et c'était les deux seuls points qu'on avait, on va dire, plus à l'ouest. Après, tout le reste, c'était le Languedoc-Roussillon. Et puis là, avec les échanges avec les partenaires, je viens d'apprendre qu'il y aurait des données en 2015-2018 qui seraient dans la baie de Somme, que je ne connaissais pas du tout, que personne qui n'avait pas été bien renseigné. Donc, peut-être des nouveautés dans les années à venir. Enfin, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que de toute manière, c'est peut-être plutôt plus anecdotique. Mais bon, ça reste toujours des questions qu'on se pose.
Et quand il fait son escale, alors en Bretagne, il reste combien de temps? On a une idée de combien de temps il reste?
Alors oui.
Waouh.
Alors, c'est à l'échelle de la Bretagne et c'est à l'échelle de la France de manière globale. En fait, les estimations, elles sont de l'ordre de quelques jours. Elles vont dépendre de la richesse en nourriture du site. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on est en migration, c'est comme quand vous partez en vacances. Il faut des stations essence.
Ouais, mais on ne va pas y rester des jours et des jours.
Non, sauf que eux, pour remplir le réservoir, ça prend plus que les 20 minutes peut-être qu'il nous faut pour notre réservoir. Mais donc, du coup, c'est un peu la même idée. En fait, il va chercher des stations-service pour faire le plein, pour pouvoir continuer à faire sa migration. On sait que les adultes peuvent faire des trajets migratoires de 1000 km de continu. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il s'arrête à un endroit, il fait le plein, et puis après, il fait un grand trajet. Il s'arrête à un endroit, il fait le plein, puis il fait un grand trajet. Donc, ce qui est important, c'est que quand il s'arrête à un endroit, il puisse faire le plein le plus rapidement possible, parce que lui, l'intérêt, c'est d'arriver le plus rapidement possible sur, sur ces sites d'hivernage. Et donc, du coup, voilà, le temps de séjour, il va être aussi variable en fonction de la quantité de nourriture disponible. Pour savoir combien de temps il reste, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on a des idées un peu vagues. Parce qu'en fait, la meilleure manière d'étudier le phragmite aquatique quand il passe en migration, c'est ce qu'on appelle le système du bagage. C'est-à-dire, on met ces filets verticaux qui capturent les oiseaux. Et donc, du coup, pour savoir le temps de séjour, il faut que vous capturiez l'oiseau une fois et une deuxième fois.
C'est ça, oui.
Sauf que même ça, ça ne vous suffit pas pour savoir le temps de séjour, parce que la première fois que vous le capturez, il peut être arrivé aujourd'hui comme il peut être arrivé une semaine, vous ne savez pas. Et la deuxième fois que vous le capturez, vous ne savez pas s'il part le lendemain ou s'il part une semaine après.
Et non, parce que c'est des bagues, ce n'est pas des balises.
Et bien voilà, donc du coup, l'étape suivante, c'est de leur mettre ce qu'on appelle des radioémetteurs. Donc, c'est des petits émetteurs VHF. Et puis après, vous avez quelqu'un avec ce qu'on appelle les antennes râteaux. On a peut-être déjà vu des images. Vous baladez avec vos antennes râteaux et puis en gros, vous êtes aux plumes du derrière de l'oiseau pendant 24 heures sur 24. Parce qu'en fait, généralement, ça a une portée de quelques centaines de mètres.
Ah oui, on campe dans la zone humide.
Quoi. On campe dans la zone humide pour ne pas le perdre. Et quand on le perd, on considère qu'il est parti.
Ah ouais,
donc d'accord. C'est assez chaud. Mais ça a été fait. Ça a été fait en Bretagne au début des années 2000. Puis après, ça a été fait dans différentes zones de France. Donc globalement, les chiffres sont tous plus ou moins pareils. On va dire que c'est de l'ordre de 4 à 6 jours.
Ah oui,
l'escale
oui,
migratoire.
Ah ouais.
Ça, c'est rapide. De toute manière, ils n'ont pas intérêt à traîner. Hein.
Ouais. Et une seule escale. Non, plusieurs escales quand même, oui. On suppose. Ouais.
Oui, oui. Alors ça, par contre, le bagage le renseigne. Parce qu'on a des contrôles intersites au sein d'une même année. Bon, on n'en a pas beaucoup, hein, parce que c'est... Enfin, je veux dire, quand il y a 500 captures à l'échelle de la France par an, on est content. Donc, voilà, c'est pas non plus... Enfin, voilà, la probabilité qu'ils soient capturés une fois à un endroit, une deuxième fois à un autre endroit, c'est quand même, elles sont quand même assez faibles au vu de l'effectif. Donc, du coup, il n'y a pas énormément de données, mais oui, il y a probablement plusieurs escales migratoires, ouais.
Bon. Alors, quels sont ces prédateurs naturels, déjà, aux phragmites? Pourquoi est-ce qu'ils se camouflent?
Bon, alors là, j'avoue que je ne me suis jamais trop posé la question, parce que, en fait...
Les autres oiseaux qui mangent des œufs, je suppose, non?
Alors oui, sur les œufs, ça va être les autres oiseaux, ça va être les petits mammifères. Ouais. Après, comme tous les passereaux, ça peut être des rapaces, ça peut être...
C'est pas spécifique, mais...
Non.
C'est les prédateurs des passereaux en général, quoi.
Exactement, ouais. Après, nous, aujourd'hui, son problème, en fait, c'est pas les prédateurs, c'est plus la disparition des habitats. Après, c'est pas la seule espèce. On va dire que peut-être que son problème à lui, c'est qu'il sait peu s'adapter.
Oui, puisqu'il ne mange que les insectes aquatiques, quoi.
Alors, non, le problème, c'est pas les insectes aquatiques. En fait, le problème, c'est la modification de l'utilisation de son habitat. Donc, comme on a décrit au début, parce que, en fait, historiquement, le phragmite aquatique, il y nichait jusqu'en France, hein. Aujourd'hui, il est plus que dans les pays de l'Est, mais en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que des zones humides comme on peut voir en Pologne ou en Biélorussie, on en a eu nous aussi. Mais il y a très 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 longtemps. Donc à ces époques-là, des phragmites aquatiques, on pouvait en avoir en nidification. Sauf que en fait, on va dire que l'industrialisation de l'agriculture s'est faite d'abord chez nous, et puis progressivement, s'est déplacée vers l'Europe de l'Est. Et en fait, en gros, la rétractation de l'aire de nidification de l'espèce, elle a suivi tout simplement ça.
Ah oui, parce qu'il ne peut pas se contenter d'une petite zone humide avec quelques tours de molinés. Enfin, c'est ça, il lui faut quand même un grand espace, quoi.
Il lui faut un grand espace, c'est pas qu'il ne peut pas s'en contenter. C'est-à-dire que si, le jour où il restera 3 phragmites aquatiques en nidification, sûrement que peut-être que 10 hectares lui suffiront. Sauf qu'en fait, le maintien de l'espèce... Il faut quand même imaginer le phragmite aquatique... La comparaison avec l'hirondelle, elle est pas mal, dans le sens où c'est une espèce petite qui fait un très grand trajet de migration. Donc, il faut imaginer que le taux de survie, c'est quand même fortement impacté. Donc, on va dire que ces espèces-là, très globalement, quand on regarde la stratégie des espèces des oiseaux, vous avez des espèces qui sont très longévives, donc qui vont vivre 10, 20, 30, 40, 50 ans, et qui font peu de petits, mais par contre, qui ont une très grosse survie chez les adultes. Et du coup, globalement, ça maintient l'espèce. Vous pouvez avoir un autre système où on est plus fragile, les adultes sont plus fragiles. Pour compenser, on fait beaucoup de petits. Par exemple, les hirondelles, on sait, elles font 2-3 pontes. Les phragmites aquatiques font quasiment systématiquement 2 pontes par an. C'est-à-dire que par ponte, il peut y avoir 2-3 poussins. Donc, ils produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour garder un petit peu. Donc, en fait, c'est plus ça le problème. Donc, trois individus, ils arriveraient jamais, enfin, c'est caricatural, bien sûr, oui, mais bien sûr. Ils arriveraient jamais à maintenir une population globalement. Donc, ils ont besoin d'être nombreux. Donc, pour être nombreux, il faut pas mal d'espace.
D'espace, d'accord. Okay.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme ils nichent en zone agricole, si les fauches sont trop précoces, et eh ben en fait, bon, ce qu'on connaît aussi chez nous, par exemple chez les busards, hein, ou chez le râle-déjeuner, hein, quand on a des fauches trop précoces, ben on tape sur les petits qui sont nés. Ben leur problème, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir des zones qui restent très humides, donc ils aiment pas tout ce qui est question de drainage. Ils ont besoin d'avoir des zones qui restent un peu longtemps sur pied, donc tout ce qui est drainage qui permet de faire passer les engins agricoles qui vont plus vite que de la fauche manuelle, plutôt en saison, et eh ben c'est défavorable, tout simplement.
Uh-huh. Et c'est pas une question d'effectifs d'insectes, en fait, parce qu'on sait que les populations d'insectes s'effondre, donc est-ce qu'il y a ça aussi, quoi?
C'est-à-dire que là, on commence à se poser la question, mais jusqu'ici, on n'avait jamais identifié cette question-là. Et c'est vrai que nous, à l'échelle du nouveau plan d'action on a un nouveau plan national d'action pour la conservation du frais limite aquatique. Et justement, au moment de la rédaction de ce nouveau plan, on s'est quand même pas mal posé des questions sur les ressources alimentaires au-delà du maintien des zones humides. Alors, ok, oui, on maintient les zones humides, c'est bien. Bon, elles sont toujours en régression, donc ça va pas très bien, mais enfin bon, bah voilà, enfin bon, peu importe, restons un petit peu positifs. Mais on s'est posé aussi la question des ressources alimentaires et on a commencé à consulter pas mal de biblios là-dessus et de suivi des études, notamment au Camargue par exemple, sur la réserve. Ils font des choses très intéressantes où on a effectivement un effondrement des insectes et pour l'instant, on ne l'a pas identifié, mais c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui est un petit peu caché et qui risque de nous arriver assez rapidement. Et pour l'instant, on n'a pas fait le lien direct, mais je pense que malheureusement, ça risque d'arriver bientôt.
Parce que par exemple, à Trinvel, aux étangs de Trinvel, vous ne menez pas des études entomologistes pour voir combien il y a d'insectes, si ça...
Non, malheureusement.
Ouais.
J'aimerais beaucoup.
Ça pourrait, oui. Voilà,
fait, c'est un des projets qu'on a avec le nouveau PNA. C'est qu'on
parlons de ce plan d'action. Ouais, tout à fait.
Donc voilà, là, il vient d'être validé avec tous les circuits administratifs. Donc en fait, c'est un PNA sur 10 ans.
PNA, ça veut dire quoi,
PNA? Plan national d'action.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, le PNA, en fait, c'est une décision au niveau du ministère à Paris qui identifie un certain nombre d'espèces pour lesquelles on va écrire un document national qui indique quels sont les axes de travail. Mais ça, c'est juste une décision à Paris. Après, ce qui est important de regarder, c'est que dans ce PNA, on identifie des régions pour lesquels il y a des enjeux pour cette espèce-là. Et après, en fait, le gros du travail du PNA, c'est ce qui va se passer en région. Paris. Voilà.
Ah non.
Et donc, à l'échelle du frais limite aquatique, en fait, il y a 6 régions qui sont importantes pour lui, pour les actions, pour les sites de pour sa période de migration. Donc, c'est les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Voilà, en gros, le tour.
Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, en gros, ça va consister en quoi, ce plan d'action?
Le plan d'action, en fait, c'est le deuxième. On en avait déjà eu un 2010-2014. On en a un nouveau 2021-2032, donc pour 10 ans, cette fois-là. Les objectifs, en fait, c'est le maintien, voire l'augmentation des habitats favorables aux frais limites aquatiques en migration. Donc, ça veut dire, en gros, maintien des zones humides, maintien des modes de gestion favorables à ces habitats. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que, en fait, le frais limite aquatique, il est globalement en août chez nous. Et donc, du coup, il faut que les habitats ils soient favorables en août. Et quand on va être dans des secteurs de prairies de fauches,
voilà. Et elles sont fauchées en août.
Généralement, la fauche tardive au milieu agricole, c'est plutôt quand on leur dit le 15 juillet, ils disent « Oh là là, c'est tard !» Nous, on leur dit « Ouais, mais nous, on voudrait le 31 août. »
Puis en plus, si le climat évolue, comme on l'a vu là, avec de la sécheresse, ça risque aussi d'avoir un impact sur les pratiques agricoles et donc sur le frais limite aquatique.
Et oui, comme sur toutes les autres espèces.
Oui, bien sûr.
Ouais. Ouais. Oui, non, mais ça aussi. Alors après, les sites intéressants pour le frais limite aquatique à l'échelle de la Bretagne sont peu en zone agricole.
Ça, c'est plus
valable, par exemple, dans l'estuaire de la Loire, qui est quand même un lieu très important pour le frais limite aquatique, où eux, ils sont beaucoup confrontés à cette question-là. Nous, on l'est moins, parce qu'on est plus en zone ENS ou ce genre de choses. Donc, en fait, c'est déjà des zones qui sont gérées pour le patrimoine.
ENS, c'est espace naturel.
Oui, pardon.
Ouais, c'est déjà des zones protégées, quoi. En fait.
Oui, voilà, c'est déjà des zones qui ont des enjeux patrimoniaux sur lesquels il n'y a pas forcément de pression.
Il y en a à Kervigène, par exemple, chez nous. nous, là, au fond de la baie de Douarnenez ?
Eh ben oui, tout à fait. Oui, oui, Kervigen, c'est un petit site en termes d'effectifs. Après, le site n'est pas bien grand. Il faut dire aussi que si on prend, par exemple, toutes les zones arrière littorales de la baie d'Audierne, c'est immense. Si on regarde la baie de Douarnenez, les zones arrière littorales, on a des plus petites. Par contre, oui, le site majeur, c'est le marais de Kervigen, qui est un site assez intéressant, qui est étudié depuis 2008 pour le Frimit aquatique. Et il passe tous les ans. Il y a l'association Grumpy Nature qui fait du suivi des passereaux paludicoles et du Frimit aquatique, avec le soutien du conseil départemental du Finistère. Et du coup, ce site-là est un site, c'est pas un site majeur en termes de surface. Par contre, c'est un site régulier. Donc il est important, ouais. Parce que le Frimit aquatique, comme je disais, comme c'est le passereau le plus menacé, même pour 10 Frimit aquatiques, il faut garder un site, quoi.
Et donc on pourra observer, dans le plan national d'action, il y aura des observations d'insectes sur certaines zones humides pour voir...
C'est ce que j'aimerais, ouais. Bon. C'est le projet. Dans le projet, on aimerait en fait... En fait, le problème des insectes, c'est le problème du protocole aujourd'hui. Parce qu'on a des protocoles...
Comment les suivre ?
Ouais, alors, non, on les a, les protocoles, mais ils sont hyper lourds en termes de temps de travail. Donc forcément, financièrement. Et donc, du coup, on n'arrive pas à les mettre en place. Ou alors, on les a déjà mis en place, mais généralement, on fait deux années, et puis après, on arrête. Là, ce qu'on aimerait, c'est, travailler à avoir une méthodologie plus... répétable. Et une fois qu'on la valide, d'avoir un réseau sentinelle. L'idée, ça serait d'avoir un petit peu un réseau sentinelle du nord au sud de la France, parce que au-delà du nombre de Frimit aquatiques qu'on est capable de capturer, on a besoin de savoir est-ce que ils trouvent bien leur nourriture.
Bon, on va s'arrêter là sur le Frimit aquatique. Merci Christine Blaise, on va retrouver Bretagne Vivante la prochaine fois. Ce sera le 8 décembre, et puis en attendant, on peut tout réécouter sur le site de Radio Évasion.
Bonne journée, merci.